enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Si vous avez une Bible, on va l'ouvrir ensemble dans 1 Samuel, chapitre 1. Ce matin, on a vécu de bonnes choses, n'est-ce pas ? J'ai du mal à prendre la parole parce que j'ai la voix qui part déjà, tellement j'ai chanté et prié. Je me réjouis de voir toute une église et notamment une jeunesse qui se lève et qui dit « Je veux que ma vie ait du sens, qu'elle s'engage dans les destins que Dieu a forgés pour moi, pour vous. » Amen. Nous lisons ensemble ce passage dans 1 Samuel chapitre 1, les versets 4 à 11. C'est un certain monsieur Elkana qui avait deux épouses, un homme qui craignait Dieu, cependant, et puis une des femmes lui donnait des enfants et l'autre était stérile, Anne. Et cette femme stérile était malheureuse. Et nous allons lire un peu sa prière et nous allons en tirer un principe qu'on retrouve de manière, je dirais, cachée tout au long des Écritures et qui peut vous intéresser et m'intéresser dans ma marche avec Dieu. Amen. Le jour où Elkana, donc le mari, offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu ? Et pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas 10 fils pour toi ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et comme vous le savez sans doute, suite à cela, Anne va tomber enceinte. Mais nous relisons le verset 11. Il y a là-dedans un principe caché. Elle dit, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sous sa tête. » Et l'enfant qui va naître de cette union-là va être le prophète Samuel. Elle va le consacrer à Dieu, et Dieu va lui donner encore d'autres enfants. Elle qui était stérile va devenir très fructueuse. Ce matin, j'ai à cœur vraiment de partager avec vous une pensée toute simple, mais qui va s'appliquer dans la vie de tous les jours, dans la vie de prière, dans le service pour Dieu. Généralement, l'être humain a plus de tendance à retenir, n'est-ce pas ? L'enfant sort de du ventre de sa mère et dès qu'il a sa mère, il l'agrippe au doigt, au cou, etc. Et finalement, en grandissant, eh bien, il continue à être quelqu'un qui va s'acriber. L'instinct de conservation, on thésaurise, on a peur de perdre. La Bible enseigne l'attitude fondamentalement inverse. Et c'est résumé dans une expression anglo-saxonne que je connais, que je vous dis, que je traduis. « Let go and let God ». Ce qui veut dire en clair « laisse faire » ou « laisse aller » ou « lâche prise » et « laisse Dieu agir ». Lâche prise et laisse Dieu agir. Il y a là un principe de mort et de résurrection. Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jean 12, 24. Et ce matin, je voudrais voir avec vous quelques personnages bibliques qui ont à un moment donné dû lâcher prise. Et parce qu'ils ont lâché prise en faisant confiance à Dieu, ils ont permis à Dieu d'agir. Amen. Alors nous verrons plusieurs personnages et plusieurs domaines dans lesquels ils ont dû lâcher prise. À commencer par Anne. Voilà une femme malheureuse. Voilà une femme qui est malheureuse parce qu'elle a une rivale. Elle n'a pas d'enfant. Et l'autre lui fait sentir. Et finalement, elle veut aussi un enfant. Et elle va commencer à prier. Elle va prier un certain temps parce qu'elle veut un enfant. Mais Dieu, lui, voulait un prophète. Et pendant un certain temps, il la laisse prier. Et apparemment, rien ne se passe. Jusqu'au moment donné, le niveau des désirs d'Anne s'élève au niveau du désir de Dieu. Et quand elle dit, Seigneur, je lâche prise. Si tu me donnes un fils, je te le rends. À ce moment-là, Anne reçoit un fils. Vous me suivez toujours ? Quand elle a lâché prise, quand elle a ouvert la main, Dieu a pu la remplir. Elle a lâché prise de ses désirs égoïstes. Écoutez voir l'apôtre Jacques, ce qu'il dit dans Jacques chapitre 4 verset 2 par rapport à la prière. Il dit, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Version français courante. Elle voulait un fils pour soi, à moi, mon fils qui sera le contrepoids des autres fils et des autres filles de ma rivale. Dieu, lui, voulait un prophète. Et pendant un certain temps, elle n'a rien reçu jusqu'à ce qu'à un moment donné, son niveau de désir s'est harmonisé avec le niveau de désir de Dieu. Et Dieu lui a donné quand Anne a lâché prise. Un autre domaine où nous sommes des fois invités à lâcher prise, c'est lâcher prise de certains rêves, bons ou mauvais d'ailleurs. On a tous des rêves pour nos vies, n'est-ce pas? Et nous avons aussi des rêves pour nos enfants. Nous avons des projets pour nos enfants. Des projets pour nos vies personnelles et des projets pour nos enfants. Je pense à Joseph, le fameux rêveur. Il avait reçu des rêves juste de la part de Dieu. Dieu lui avait parlé à deux reprises qu'il irait dominer ses frères et son père et sa mère. Que tout le monde viendrait se mettre à genoux devant lui. Et pendant un certain temps, rien ne s'est passé. Tout s'est accompli de manière plutôt singulière. Moïse, lui aussi, avait reçu une perception juste de son destin. Il savait qu'il allait être, lui, le libérateur. Et voyez-vous, comme Joseph, il a dû lâcher un rêve, ou plutôt l'aspect charnel d'un rêve juste que Dieu lui avait donné. Joseph a dû laisser mourir son orgueil juvénile. Il a dû laisser passer une forme de mort sur son rêve. Finalement, il a été oublié même par les chansons du roi. Et là, oublié des hommes, oublié apparemment de Dieu, quand il a fini de rêver son rêve, c'est là que Dieu l'a ressuscité. Vous me suivez toujours? C'est un principe biblique qui s'applique constamment à tout homme, toute femme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Oui, Dieu plante dans nos cœurs des rêves, et des rêves des fois très très justes, qu'il veut accomplir, mais avant de les accomplir, il va nous laisser passer par une forme de mort, puis de résurrection. Moïse rêvait de libérer les Hébreux. Il savait qu'il était fils d'Hébreux, mais éduqué à la cour de Pharaon, un homme respecté d'ailleurs par les Égyptiens eux-mêmes, c'est marqué dans la Bible. Et bien cet homme sent que Dieu, qu'il est appelé à faire quelque chose en faveur d'Israël. Et finalement, à un moment donné, à l'âge de 40 ans, il veut lui prendre son destin en main et l'accomplir. Qu'est-ce qu'il va faire? Une grossière erreur. Il sera meurtrier et tuera un Égyptien et devra fuir 40 ans dans le désert. Et au bout de 40 ans, apparemment, il avait arrêté de rêver. Et c'est là que Dieu va le chercher. Dans un buisson ardent, au fond du désert, il lui dit à Moïse, « Moïse, vas-y, maintenant c'est le moment. » Vous me suivez toujours? As-tu un rêve de Dieu? Est-il en train de mourir? Ne t'en fais pas. C'est Dieu qui travaille en toi. C'est lui qui va le ressusciter au moment où il faut. As-tu un mauvais rêve ou un rêve faux comme moi j'en avais quand j'avais 15 ans? Ah, je voulais devenir pilote d'avion, pilote de chasse. Ah, je voulais devenir pilote de chasse. Je rêvais de ça. Les fougas magistères, les pilotes, les avions de chasse, ça me plaisait. Et alors je travaillais à l'école pour rêver à ça. Et finalement, arrivé au bac, mes résultats de maths n'étaient pas tout à fait concluants. Et j'ai dû renoncer au rêve. Et ce rêve-là, Dieu n'a jamais ressuscité. Et c'est comme ça. C'était un faux rêve. Mais c'est comme ça. D'accord ? Lâche prise. Lâche prise. Quand Moïse avait lâché prise, Dieu l'a appelé. Quand Joseph avait lâché prise, Dieu a agi. Amen. Un second domaine dans lequel nous sommes des fois appelés à lâcher prise, c'est le domaine des relations. Les relations humaines. Et je vais commencer par une relation par rapport à nous-mêmes. Et je vais parler un instant aux hommes mariés, aux femmes mariées. Vous savez, à un moment donné, j'ai envie de dire à certains, il va falloir que tu lâches prise sur ta vie de célibataire. Dans 1 Corinthiens 7, versets 32 et 33, voilà ce qui est marqué. Paul dit, « J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde et elle cherche à plaire à son mari. » Mon frère, ma sœur, es-tu marié ou veux-tu te marier ? Pas de problème, c'est très bien, mais sache alors que tu as une obligation. Tu n'es plus célibataire. Et tu es appelé à prendre du temps, de l'argent, de l'énergie pour t'occuper de ta femme ou de ton mari et de tes enfants. Trop souvent, j'ai vu des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans de vie de marié, mais c'est encore des fichus célibataires. Ils ont un costard de marié, mais des chaussures de célibataire. Et finalement, ça fait à la maison plus de mal que de bien. Les enfants n'ont pas de père, l'épouse pas de mari, un mari courant d'air, etc., etc. J'aimerais te dire que tu sois dans le service ou pas dans le service, dans les affaires ou au travail, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, es-tu marié, sache lâcher prise de ta vie de célibataire parce que Dieu t'appelle à t'occuper de ta femme. Ou ton mari. On peut dire amen à cela ? 1 Pierre 3, 7 dit, vous de même, mari, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Éphésiens 5, 22 et 23, on cite ces passages, je vous le cite dans la version Louis II et dans la français courant ou paraphrasé. Femmes, soyez soumises à vos maris. En parenthèse, en français courant, c'est femmes, essayez de comprendre et d'épauler vos maris. C'est bien dit ça. Je répète. Essayez de comprendre, pas toujours évident les hommes, essayez de les comprendre quand même, et de les épauler. Et à vous, mari, voilà ce qu'il dit. Aimez vos femmes. Mais c'est un présent de l'impératif. En français courant, paraphrasé, voilà ce qui est dit. Vous devez tout faire, messieurs, mes frères, vous devez tout faire pour prouver votre amour pour vos femmes. On fait ça généralement très bien avant le mariage. Mais une fois mariée, elle a la bague au doigt, maintenant elle est à moi. Oui, c'est sûr, dans une certaine mesure. Mais elle a besoin qu'au fil des années, tu lui prouves constamment, toujours encore, qu'elle est la number one. Amen. Alors là, je t'invite célibataire ce matin. Et occupe-toi des tiens. Alors, je dis ça, mais dans un instant, je vais dire tout le contraire. Parce que la Bible dit aussi le tout et son contraire à cet égard-là. Et je vais citer des passages qui se contredisent apparemment, mais qui, dans les faits, se complètent les uns les autres. J'aimerais te dire, lâche aussi ton époux ou ton épouse. Il y en a qui ont fait de leur époux ou de leur épouse, ou qui ont rendu à leur époux ou à leur épouse la vie conjugale. Ils en ont fait une vie carcérale. Maintenant, t'es à moi. Et voilà, t'es là que pour moi. et t'as pas intérêt à revenir trop tard du culte, etc. Alors, des trucs inimaginables que j'ai déjà entendus. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, lâche ta volonté de l'attacher qu'à toi. Oui, une fois que t'es marié, vous vous appartenez l'un à l'autre, mais vous appartenez tous les deux, vous appartenez à Dieu lui-même. Et Dieu peut te dire maintenant, donne-le-moi un instant. Donne-le-moi toujours à nouveau, redonne-le-moi. Redonne-la-moi. Lâche-la pour le service auquel je l'appelle. Plus tu vas retenir, plus tu fermes la main, plus ça va pourrir. Mais quand tu ouvres, quand tu lâches, tu libères la vie. Et elle ou il va revenir, d'autant plus vite et d'autant mieux. Allô ? Vous êtes encore là, c'est très bien. Laisse-le, laisse-la faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il y a des moments, ce qui est juste aux yeux de ceux de Dieu, c'est que tu t'occupes du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est à la fois et le service pour Dieu, mais c'est aussi la famille. Il y a des temps où Dieu t'envoie et te dit, maintenant tu arrêtes de me servir, tu me sers en servant ta famille. Et inversement, il y a des moments où Dieu te dit, maintenant tu t'arrêtes, ta famille va bien, lâche-le-moi, lâche-la-moi, donne-le-moi, donne-la-moi, pour qu'elle puisse me servir dans la spécificité à laquelle je l'ai appelée. Amen. Encore un autre texte peut-être, Stéphane, là, par rapport aux couples qui sont mixtes, où l'un est croyant, l'autre incroyant. 1 Corinthiens 7, 14, il est marqué. En effet, le mari non croyant est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. De même, la femme non croyante est proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Autrement, vos enfants seraient considérés comme impurs, alors qu'en réalité, ils sont proches de Dieu. Donc, si un conjoint non croyant veut rester, garde-le, conserve-le, chéris-le. Cependant, est-il marqué au verset 15, si celui qui n'est pas croyant veut se séparer de son conjoint chrétien, qu'on le laisse agir ainsi. Dans un tel cas, le conjoint chrétien, que ce soit l'époux ou l'épouse, est libre, car Dieu vous a appelé à vivre en paix. Comment pourrais-tu être sûr, toi, femme chrétienne, que tu sauveras ton mari? Ou comment pourrais-tu être sûr, toi, mari chrétien, que tu sauveras ta femme? Autrement dit, lâche-lui la grappe. Ouvre la main. C'est pas toi qui vas l'amener à se forcer à se convertir. Sois pour lui un exemple, pour elle un exemple. Aime-le, aime-la. Fais ce qu'il faut faire. Mais cependant, tu ne pourras pas la forcer ou le forcer à venir. Et peut-être qu'en lui lâchant la grappe, en étant un exemple vivant, sans beaucoup parler, peut-être qu'il ou elle se convertira beaucoup plus vite. Amen. Un troisième point encore, dans les relations humaines. Lâche ton enfant. Je n'ai pas dit, laisse-le aller n'importe où, laisse-le faire n'importe quoi, mais j'ai dit, lâche ton enfant. Je m'entends. Des fois, on peut faire de nos enfants nos idoles. Je pense que ça m'arrivera un jour aussi, le jour où j'en aurai. Le danger me guettera sûrement aussi autant que tous les parents du monde entier qui aiment leurs enfants. C'est mon fils, c'est ma fille. Le jour où j'en aurai, je les aimerai aussi comme ça. Mais cependant, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a eu des hommes et des femmes à qui Dieu va demander de lui laisser l'enfant. Je pense à Abraham. Abraham a prié des années. Il a prié 25 ans pour avoir son fils. 25 ans. Il l'a eu un 100 ans. Et quand Isaac a 13, 14 ans, Dieu lui dit, donne-moi ce fils. Donne-le-moi. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. En tout cas, il a bien fait de ne pas en parler à Sarah. Parce que la mère Sarah, peut-être qu'elle aurait réagi autrement. Mais Abraham était un homme de Dieu. Et il aimait Dieu. Et il était prêt à dire, Seigneur, je vais te montrer que je t'aime plus que mon propre enfant que tu m'as donné, le fils de la promesse. Il a su lâcher son enfant. Anne, la mère de Samuel, a su lâcher ses premiers enfants, ce premier-né. Et parce qu'elle l'a lâché, elle l'a reçu. Parce qu'Abraham a lâché son fils, Hébreux 11, 25 dit qu'il l'a retrouvé comme par une sorte de résurrection. Vous me suivez toujours ? Parfois, nous avons des projets pour nos enfants, pour nos fils et nos filles. Et Dieu vient, il les sauve, et des fois, il contrecarre nos projets. Ou tout simplement, l'enfant, il a un développement personnel différent de ce qu'on aurait espéré, et il fait autre chose. J'aimerais te dire, Dieu sait ce qu'il fait. Et si Dieu a inscrit ses compétences et ses talents potentiels en lui, c'est qu'à un moment donné, il saura les utiliser parfaitement, n'est-ce pas? Savoir ouvrir sa main, savoir lâcher. Et finalement, peut-être pour terminer au niveau des relations, j'aimerais parler de notre propre vie. Parfois, nous avons du mal à lâcher nos propres vies. Jésus est-il dit à donner sa vie? Jésus a donné sa vie. Des fois, je me disais, mais si Jésus avait vécu 20 ans de plus, oh là là, tout ce qu'on aurait pu apprendre de plus sur lui encore. Tout aurait été rédigé, toutes les personnes malades guéries, tous les enseignements reçus, mais ça aurait été formidable. Et pourtant, Jésus va partir à 33 ans dans la fleur de l'âge. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Alors on veut tous vivre longtemps, mais pas vieillir, il y a encore moins mourir. Vrai ou pas vrai? Bien-aimé, et pourtant un jour il faudra lâcher la vie. Lâcher la vie. J'ai connu un pasteur d'origine allemande, qui était un de mes premiers pasteurs que je connaissais et que je l'écoutais prêcher, il m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et à l'âge de, je crois, 55 ans, il a eu avec sa femme un accident. Elle était déjà malade avant. Et puis, elle était encore une fois donc gravement accidentée. Et avec ses enfants, ils ont prié et jeûné pour cette épouse. Ils ont prié et jeûné. Ils ont prié et jeûné et apparemment, les choses allaient de mal en pis. À un moment donné, le médecin dira à la famille, écoutez, votre épouse, elle est au bout, elle va mourir. Alors il a rassemblé ses enfants, ses trois enfants, il leur a dit, maman va mourir. Et maintenant, on va s'arrêter de prier. Si elle doit mourir, eh bien qu'elle parte auprès du Seigneur. Et elle est morte. Et quelques heures plus tard, elle est ressuscitée. Elle a vu le ciel. Elle a vu Jésus. Elle a vu le livre de vie, elle a vu le propre livre de sa propre vie. Et elle nous disait, quand elle a vu Jésus feuilleter les pages, elle voyait sa jeunesse, des belles pages de jeunesse. Puis sont arrivées des pages où elle avait peur que la page se tourne. Quand la page se tournait, dans l'adolescence, une jeune adulte, il y avait des blancs, des paragraphes blancs, des pages blanches. Le sang de Jésus avait lavé les pages du péché. Et Dieu a rendu cette maman et cette épouse à son mari et à ses enfants. Et aujourd'hui encore, ils servent Dieu ensemble. Amen. Elle a lâché. Ils ont ouvert la main. Ils ont lâché. Je voulais terminer par un quatrième point ce matin sur lâcher un tas de choses. On a parlé de lâcher des désirs égoïstes, lâcher des rêves bons ou mauvais, lâcher différentes relations. Et puis finalement, on sait tous, n'est-ce pas? On sait tellement bien, mais c'est quand même toujours difficile quand ça nous est demandé. Quand Dieu nous demande de relâcher nos biens, par exemple. Je pense à ce jeune homme riche qui vient à Jésus dans Marc 10, 35, 10 verset 20 à 22. Il vient et dit, maître, bon, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et je te dis, mais il faut que tu obéisses à la loi, ceci, cela. Il dit, mais Seigneur, tout ça, je le fais depuis ma tendre enfance. Et Jésus le regarde et lui dit au verset 22, avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour, et lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et pas à moi, donne-le aux pauvres, puis ensuite, viens et suis-moi. Viens, suis-moi. On raconte que, paraît-il, la dernière chose à se convertir chez un chrétien, c'est le porte-monnaie. On vit une génération où on a accumulé des richesses considérables en Occident. On vit parmi les 8% des personnes les plus riches de la planète. Et pourtant, il semblerait qu'on n'ait jamais assez. Le cœur nous dit, travaille plus, gagne plus, et tu seras plus heureux. Et moi je te dis, l'argent c'est comme l'eau de mer, comme l'eau salée. Plus tu en bois, plus tu auras soif. La question fondamentale qui est en dessous c'est, on va se la poser aujourd'hui peut-être, c'est quand est-ce que assez est assez? Quand est-ce que assez de biens matériels est suffisant? Il y a des gens, il leur faut au moins un million de francs de côté pour être tranquille. Deux maisons, trois voitures. Attendez, d'accord, ok. Mais cependant, si Jésus nous avait dit, va avant tout ce que tu as, donne le pauvre et suis-moi, comment aurions-nous réagi? Comme lui, il s'en alla tout triste. Ou comme Corneille, ce centenier romain, qui lui, il est marqué dans Acte 10, verset 1, que Corneille était un homme juste et pieux, qui priait beaucoup et qui faisait beaucoup d'aumônes. Il était riche pour les autres. Et tout à coup, un jour, pendant qu'il prie, un ange le visite et lui parle de l'évangile. Il lui dit, va chercher Pierre à Joppé, à Jaffa actuellement. Bien-aimé, je me dis, quand on donne à Dieu, Dieu n'est jamais débiteur de personne et il rend toujours au centuple. Pour l'avoir moi-même expérimenté, je peux vous dire que Dieu rend toujours, 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 toujours au centuple. On n'est jamais débiteur de Dieu. Ou vous serez un vase dans lequel on met de l'eau dedans, et vous savez comment c'est, quand l'eau stagne, ça pourrit. Ou vous serez des pots de fleurs. Un grand orifice au-dessus, un petit en dessous. Ce qui rentre, ressort. Et parce que ça ressort, ça reste en vie. Ça sent bon, ça produit de la vie, ça produit des plantes, des fleurs, des graines, du fruit. Amen. Comme ça? Ou comme ceci? Telle est la question ce matin à chacun d'entre nous. Vous savez, la vraie richesse, c'est le contentement. C'est savoir être content de ce qu'on a. Je ne dis pas une parole d'ambition pour aller mieux, pour mettre du beurre dans les épinards, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un moment donné aussi où assez, c'est assez. L'apôtre Paul était vraiment un homme heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait découvert le secret du contentement. Il dit dans Philippiens 4, verset 11, « J'ai en effet appris à me contenter. » J'ai appris, il n'a pas tout de suite su non plus. « J'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je dois me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Dieu sait exactement ce dont quoi nous avons besoin ici, dans une région qui est froide, qui a besoin de maisons, de chauffage, etc. Dieu sait dans quelle société nous vivons. Dieu le sait et Dieu nous donne. Mais à un moment donné, il peut aussi nous dire maintenant, tiens, ouvre ton cœur. Sois généreux pour ceci, pour cela, pour cela, pour cela. Je voudrais bien conclure simplement. Let go and let God. Lâche prise, laisse faire, ouvre ta main et laisse Dieu agir. Lâcher ou relâcher, ce n'est pas du fatalisme. C'est après avoir tout fait pour arranger une situation, par exemple. Vient un moment où je suis invité à lâcher prise et à abandonner la situation à Dieu. C'est une forme de saut dans le vide, mais où Dieu est le filet qui nous rattrape. Bien souvent dans nos prières, nous sommes trop pleins de nous-mêmes, de nos projets, de nos idées, notre attachement à notre sécurité, à notre richesse. Nous sommes des fois trop pleins de notre insensibilité aux autres. Combien de fois je me suis découvert que j'ai prié tellement longtemps pour moi et si peu pour les autres. C'est incroyable. Quand Anne a lâché son désir égoïste, un fils pour elle, pour montrer à la rivale, qu'elle aussi avait un fils. Quand Abraham a lâché son fils, il a dit, Seigneur, mais je t'aime plus que mon enfant. Et je sais que maintenant, te l'offrant, tu vas me le rendre parce que tu l'as promis. Il l'a reçu. Quand Joseph avait lâché ses rêves, Moïse sa vocation, voilà que Dieu s'est mis à agir. Vous me suivez toujours? Il y a là un principe de mort et de résurrection, et cela va vous toucher, va me toucher régulièrement, toujours, à nouveau. En lâchant son fils prodigue, le père du fils prodigue l'a renvoyé à lui-même, à ses propres responsabilités. S'il l'avait retenu, mon fils reste chez moi, le monde est mauvais, tu verras, tu vas te perdre. Bien sûr, je le ferai sûrement aussi un jour avec mes enfants. Mais cependant, il y a un moment où on a l'impression que la seule solution, c'est d'ouvrir la main, de lâcher. et de laisser faire Dieu. Et ce n'est jamais simple. C'est un processus douloureux, mais un processus fructueux. Le Fils est revenu totalement différent. Il a gagné son Fils. Il a retrouvé la vie, ce Fils-là. Amen. Quand Abraham a lâché son amour paternel au profit de son amour pour Dieu, quand Anne a lâché son fils, etc., eh bien, elle l'a retrouvé. Maintenant, j'aimerais simplement nous dire, lâchons nos peurs. La peur de ne pas en avoir assez. Travaille ce qu'il faut, mais occupe-toi aussi des tiens. Occupe-toi du royaume de Dieu, et Dieu saura remplir ta main. Lâche ta peur de ne pas trouver de conjoint. Ah, c'est une sacrée peur, ça. Et je peux comprendre, et je peux comprendre. La peur de la solitude. Et avec les années passant et défilant, on se dit, mais qui voudra encore de moi, notamment pour les sœurs. J'aimerais te dire, lâche ta peur de ne pas trouver de conjoint. Continue de servir Dieu avec joie et fidélité, et tu verras que Dieu, en son temps, t'honorera. Si d'aventure, tu risquerais à te servir toi-même, tu cours le risque, justement, d'être profondément déçu. Le mariage n'est pas la seule voie du bonheur. Si vraiment ça l'était, pourquoi tant de gens divorcent-ils? Lâche tes rêves entre les mains de Dieu, alors il pourra les réaliser. Lâche ton mari, lâche ta femme, lâche ton enfant, lâche ta propre vie. Et tout à coup, tu verras que Dieu pourra remplir et t'exaucer. Élie, à un moment donné, le sacrificateur Élie, pas le prophète Élie, le sacrificateur dont il est parlé dans 1 Samuel. À un moment donné, il va essayer de conserver ses fils en ne les reprenant pas pour leur mauvaise attitude. Et vous savez quoi? Il a tout perdu. Et ses fils, et à cause de ses fils, sa propre vie. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et c'est juste à ses yeux, et toute chose te sera donnée en plus. C'est Montalan qui disait, il n'y a que des mains vides que Dieu puisse remplir. D'où l'importance de lâcher prise. De lâcher prise aussi de la fameuse cacahuète. Vous le savez, n'est-ce pas, les singes en Afrique, voilà comment on les attrape. On ne va pas les chasser avec des filets ou avec des fusils, avec des anesthésiques. Non, non, on fait un trou dans un arbre de la taille du poignet. Et dedans, on met une cacahuète. Alors le petit singe, il voit ça, il met la main dedans, il la plonge dedans et il fait le point pour retirer la cacahuète. Mais quand il veut ressortir la main, elle est coincée parce que l'orifice est trop petit. Et finalement, il est une proie facile pour les chasseurs qui viennent le cueillir. Belle cacahuète. Mortelle cacahuète. Savoureux péché. Mortel péché. Ah, je l'ai. Ce chéri, enfin je l'ai, celui-là. Pas forcément le bon, hein. Ah, j'ai enfin telle chose, telle chose. J'ai envie de te dire ce matin, quel que soit ton péché, lâche, prise, ouvre ta main, amène-la à Dieu, et Dieu saura la remplir. Ce matin, on a parlé de servir Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui se sont mis à genoux, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, à un moment donné ou à un autre, ce principe de mort et de résurrection va venir et Dieu va vous demander d'ouvrir la main, de lâcher prise, de laisser aller et de laisser Dieu agir. Alors ce matin, j'aimerais te dire, Dieu ne remplit que des mains vides, comme Anne, Abraham, Joseph, Moïse et même le Christ. Alors je vous souhaite à tous des mains vides, des grandes mains vides que Dieu peut remplir. Mais pour cela, que vous demande-t-il de lâcher aujourd'hui? Et si vous avez déjà lâché, j'aimerais vous dire réjouissez-vous, parce que Dieu remplit les mains vides.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.